Meilleurs vœux, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique, Eric Manirakiza, Carrefour Sciences et Santé vous souhaite une année de bonne santé et nul n'ignore que la santé, c'est le plus grand des biens. C'est pour cela que votre magazine se penche en ce début d'année au bilan de 2015 et à la perspective dans la lutte contre le sida, la pandémie qui gangrène l'Afrique et qui ne cesse de nous retirer ce bien qu'est notre santé. Nous aurons les témoignages de Jeanne Gapia Niyonzima, burundaise, 29 ans de vie avec le sida, 21 ans de combat contre le VIH.
Il y a un relâchement qui fait très mal et qui me fait peur. Cette jeunesse aujourd'hui se dit « j'aimerais vivre sans le sida ». Parce que c'est vrai, vivre avec le VIH c'est possible, mais vivre sans le sida c'est encore mieux.
Le sida c'est aussi un combat des jeunes. Mani Djelassem, 17 ans, tchadienne, porte la voix des jeunes.
Quand j'ai su que j'étais infectée, je savais quoi dire, quoi. J'étais vraiment triste. J'étais toujours enfermée, donc je savais pas. Et j'avais toujours peur que les gens me stigmatisaient, quoi. Les gens me disaient n'importe quoi.
Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas l'issue, mais c'est le combat, dit une citation française. Mais nous pouvons atteindre notre objectif en maintenant le combat. L'an dernier, 36,9 millions de personnes étaient malades du sida dans le monde. Ces chiffres publiés par l'ONU précisent que l'Afrique, notre Afrique, reste le continent le plus menacé. Parmi ces malades, 15,8 millions de personnes étaient sous traitement antirétroviraux. L'objectif fixé d'ici 2030, c'est d'éliminer l'épidémie de sida. L'ONU SIDA compte utiliser pour 2020 la formule 90-90-90. 90% des personnes infectées par le VIH doivent le savoir. 90% des personnes connaissant leur statut doivent suivre un traitement. Et enfin, 90% de celles qui sont traitées doivent voir leur charge virale supprimée. Pour réussir ce pari, des activistes s'impliquent comme Jeanne Gapia Niyonzima, présidente de l'Association nationale des séropositives et des sidaïens, ANSS, du Burundi. Mais comment a-t-elle débuté ce combat?
Alors, je suis engagée dans la lutte contre le sida depuis 1994. Donc, je dirais 21 ans maintenant. Et c'est devenu tout simplement ma vie. Parce que c'est un engagement où j'ai mis, en tout cas, une passion et une volonté comme je peux le faire.
Oui, mais il doit y avoir une raison particulière.
Alors, disons que si je me suis engagée auprès des malades, des personnes infectées, malades du sida, c'est que je suis moi-même infectée depuis 29 ans et que j'ai décidé de ne pas pleurer sur mon sort, mais plutôt de transformer ce malheur, si on l'appelait ainsi, à une énergie positive et chercher à trouver des solutions, à me battre, mais surtout à me battre pour des centaines, des milliers d'autres personnes qui n'ont pas peut-être eu la chance que j'ai eue, et que ce soit au niveau du Burundi, en Afrique et dans le monde.
Oui, vous avez décidé de briser le tabou. À l'époque, ce n'était pas facile de dévoiler sa séropositivité. Voudriez-vous nous rappeler comment ça s'est passé? Vous étiez à l'église, paraît-il, à l'époque.
Exactement. En fait, ma première sortie, hein, mon premier témoignage à visage découvert, ça a été en 1994. Le 1er décembre 1994, comme vous le savez, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et ce jour-là, il y avait une messe qui était dédiée à la lutte contre le sida. Et j'y suis allée en tant que chrétienne. Et comme on dit que c'est le jour où on va prier, on disait qu'il fallait prier pour les morts. Et j'en avais, hein, et j'en avais assez pour prier pour eux. Et dès que je suis arrivée, à ma grande surprise, c'était une condamnation des personnes infectées, des morts du sida, parce que à cette époque, le prêtre, il a dit qu'il fallait qu'on prie pour les malades du sida, mais que ceux qui sont décédés et ceux qui sont infectés, c'est des gens qui étaient des pêcheurs et qui ont eu ce qu'ils ont cherché. Et à ce moment-là, moi, je n'étais pas d'accord. Je dois dire qu'en allant à la messe, hein, je n'avais pas programmé cela. J'étais allée comme toute chrétienne pour prier. Mais lorsque le prêtre a dit cela, je ne me suis pas retenue. Et c'était vraiment difficile de réagir. Hein, comme vous le savez, à l'église, on ne va pas parler comme on veut. Hein, c'est des choses bien organisées. Mais j'ai pu trouver une astuce pour pouvoir aller devant et dire au prêtre que ce qu'il disait, c'était pas correct. Mais surtout, j'étais tellement blessée par le fait qu'en condamnant les morts du sida, on était en train de condamner mon enfant qui venait de décéder. Et pour moi, ça, c'était inacceptable parce qu'un enfant de 18 mois, c'est tout ce qu'on peut dire, sauf un pêcheur. Et donc, je pense que la force que j'ai eue, c'était vraiment une force du maire. Hein. Sinon, je pense avec le recul que je n'ai pas pensé à moi. Je me disais, bon, si on dit que je suis pêcheur, pêcheresse, je ne suis pas une sainte, ça c'est sûr. Mais ma conviction était que je ne pouvais pas accepter ça parce que mon bébé était dedans, était parmi les condamnés. Ça, c'était inacceptable pour moi. Et c'est là où j'ai puisé ma force. Et je pense que j'ai été la première personne au niveau du Burundi à en parler publiquement, en tout cas à cette période-là. Et je pense que ça a été salutaire, hein. Parce que c'était important de mettre le visage sur cette pandémie, parce qu'on ne parlait que des chiffres et personne mettait le visage sur ces chiffres.
L'ANSS, son organisation, s'occupe au quotidien de la prise en charge des malades, mais aussi des orphelins du sida, qui constituent aujourd'hui une véritable famille. Jeanne Gapia Niyonzima dresse la situation au Burundi, où l'enfant reste oublié dans la lutte.
Lorsqu'on parle d'enfant, il y a un décalage. Il y a un décalage qui est énorme. Et pas seulement au Burundi. Je viens d'une consultation à Dakar où on parlait justement de ce décalage de traiter les enfants, un décalage entre le traitement qui est offert aux adultes et le traitement chez les enfants de moins de 15 ans. Et pour vous donner juste les chiffres qui sont donnés par l'ONU SIDA, 3 sur 4 personnes infectées ne reçoivent pas encore les traitements. Mais c'est pire chez les enfants parce que 9 sur 10 des enfants ne reçoivent pas le traitement alors qu'ils en ont besoin. Et cette injustice envers les enfants, et je vous ai dit au début en me présentant que je coordonne un projet pour les orphelins du SIDA. Et c'est quelque chose qui m'écœure et qui n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer à être égoïste, à traiter que des adultes et à laisser les enfants parce qu'eux, ils ne peuvent pas venir demander et faire le plaidoyer pour eux. C'est inacceptable. Et donc, au Burundi, nous sommes dans la même configuration. Nous sommes dans la même configuration parce qu'au Burundi, certes, il y a eu des avancées avec les traitements, mais comme je le disais le 1er décembre de l'année passée, aujourd'hui, c'est aujourd'hui un malade qui a fait des résistances et qui a besoin des traitements de troisième ligne. Nous l'assistons mourir comme il y a 20 ans, alors que les traitements, il y en a sur le marché. Mais il n'y en a pas dans mon pays. Il n'y en a pas dans plusieurs pays d'Afrique. Et je le dis au Congo, en RDC, des collègues sont tout le temps, comme moi, en train de demander qu'on leur cherche une boîte de boîtes pour sauver des vies. Et c'est inacceptable. Donc c'est tout ça que je dis. Il y a encore un problème d'équité dans ce qu'on appelle les traitements, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des traitements et qui peuvent faire que les personnes infectées deviennent des personnes qui ont une maladie chronique, mais seulement ça devient chronique quand tu as ces traitements. Et ceux qui ont ces traitements sont des privilégiés. Et c'est injuste qu'il y ait des privilégiés et qu'il y ait des gens qu'on continue à assister à mourir.
Vous êtes toujours à l'écoute de Carrefour Sciences et Santé, un magazine spécial SIDA. Le nombre d'adolescents morts du SIDA a triplé depuis 15 ans, selon l'ONU. La moitié des jeunes séropositifs âgés de 15 à 19 ans vit en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Mozambique, en Tanzanie et en Inde. Mani Djelassem, porte-parole des jeunes vivant avec le VIH au Tchad, a contracté le VIH quand il était bébé.
Je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis née des parents séropositifs. Mes parents ne savaient pas qu'ils étaient séropositifs surtout. Et bon, avant, je ne savais pas pourquoi je prenais les médicaments. Et c'est arrivé parce que quand j'étais avec mon papa, je tombais souvent malade. Et mon papa dit c'est comme ça, alors là, il va m'amener au Tchad, rester avec un de mes oncles. Et quand je suis arrivée là-bas, je ne savais pas pourquoi je prenais toujours les médicaments. C'est arrivé dans un centre de prise en charge qu'on m'a dit que j'étais infectée. Et quand j'ai su que j'étais infectée, je savais quoi dire quand j'étais vraiment triste. J'étais toujours enfermée, donc je savais pas. Et j'avais toujours peur que les gens me stigmatisaient, quoi. Les gens me disaient n'importe quoi. Et au fur et à mesure, je me suis habituée et on m'a donné des conseils. Je suis sûre que pour beaucoup de personnes à travers le monde, leur plus grande crainte, c'est d'être infecté. La crainte, c'est d'être infecté comme la plupart de 2 600 000 personnes vivant avec le VIH dans le monde. J'étais infectée à ma naissance. Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle je ne dois plus avoir honte? Je suis ici pour vous dire que je n'ai pas honte de parler du VIH. Mais malheureusement, j'ai perdu mon maman. Après l'histoire, heureusement, j'ai eu accès au traitement, mais beaucoup d'enfants séropositifs n'ont pas eu cette chance que j'ai eue. Et 1 sur 3 sur les 2 600 ont accès au traitement. Quand on m'a demandé de parler publiquement mon statut, je me suis demandé pourquoi moi? Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir une vie normale comme les adolescents, les autres adolescents? Puis j'ai pensé à tous les enfants et adolescents et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors j'ai fait une confection. Je n'ai pas honte parce que je vais faire entendre ma voix pour les milliers d'autres adolescents qui ont un rêve comme moi. Le rêve d'aller à l'école, avoir un métier, se marier et avoir des enfants. D'avoir aussi une vie normale comme les autres. Devons-nous avoir honte de rêver d'une vie normale? Comme partout ailleurs, les jeunes font face à beaucoup de difficultés. L'accès des filles à l'éducation, le mariage précoce et la mutilation génitale féminine. Les obstacles pour l'élimination du VIH et SIDA parmi les jeunes et adolescents. Mondialement, les décès liés au VIH sont en train de baisser, sauf parmi les adolescents. Si je n'avais pas pris les médicaments et les traitements, serais-je ici devant vous? Le nombre des ados qui meurent du sida a triplé durant les 15 dernières années. Le sida est une première cause de mortalité chez les adolescents africains et ce chiffre nous tombe depuis 2000 ans. Environ 30 millions de nouvelles infections ont été écrites, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous savez que l'adolescence est une priorité rurale, mais aussi une spécialité. Non. Et nous aimons rêver. Pourquoi n'avons-nous pas pris tout le même opportunité? Moi, Mani, une adolescente, je rêve que le mariage des enfants prenne fin. Je rêve que la stigmatisation prenne aussi fin. Je souhaite que chaque enfant et chaque jeune ait la chance d'avoir un bon début à la possibilité d'un futur meilleur. pour le moment, comme vous le souhaitez. J'aimerais être journaliste. J'espère que vous vous souviendrez de mon histoire. Et une chose, je souhaiterais aussi que d'ici 2020, que le sida s'arrête.
Un témoignage émouvant d'une vie exceptionnelle, quoique semée d'embûches, Mani en est sortie fortifiée et enrichie. Dans la lutte contre le sida, Jeanne Gapia Niyonzima a constaté un défi de taille. L'engagement politique manque dans plusieurs pays africains.
Absolument. Je ne vais pas aller loin. Nous avons des voisins. Le Rwanda est parmi les pays qui sont cités, par exemple. Parce que le Rwanda a mis le paquet. Le Rwanda met leur propre fond aussi dans la lutte contre le sida. Mais c'est aussi le programme. C'est aussi tout ce qui est le programme. En fait, le grand problème, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que vous savez, dans nos pays, ce qui fait mal, c'est que même l'argent que nous recevons pour la grande majorité des pays du Fonds mondial, nos pays ne parviennent même pas à les consommer, à les absorber. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les malades. Moi, je dis toujours, quand on me donne cet argent, je vais absorber cet argent. C'est parce qu'il y a des gens qui sont à la place qu'il ne faut pas. C'est parce qu'il y a des chefs de programme qui se disent, je vais attendre ce que je devais commander aujourd'hui en décembre, si ça peut attendre au mois de mars ou au mois de juin. C'est qu'il y a des gens qui ne font pas correctement leur boulot et qui n'ont pas de suivi et qui n'ont pas un engagement concret, un engagement au plus haut niveau. Vous savez, la lutte contre le sida, le problème du sida, c'est d'abord un problème politique. Je le dis et je le redis. Moi, je me dis, aujourd'hui, s'il y avait tous ces présidents, qui sont pratiquement tous des présidents du Conseil national de lutte contre le sida, hein, on le voit dans les plans stratégiques, dans tous les pays, on va vous dire que les présidents du Conseil national de lutte contre le sida sont des présidents. S'ils étaient des présidents de ces conseils, ce que je loue, c'est très important, mais qu'ils avaient cette rage que j'ai quand ils entendent qu'il y a toujours des gens qui meurent du sida alors qu'il y a des traitements et qu'ils mettaient toutes les personnes qui ont un rôle autour de la table en leur disant « j'ordonne qu'il n'y ait plus de morts ». Je vous assure, les gens vont suivre. Est-ce qu'il y a un seul président qui a fait ça? Je n'en ai pas entendu parler. Et je me dis, on ne peut pas continuer à nous dire qu'il y a l'engagement politique. Nous, les personnes infectées, nous, les mamans qui ont perdu des enfants, comme je le dis, je me bats pour qu'il n'y ait plus une mère qui donne la mort au lieu de donner la vie. Moi, j'ai donné la mort, je n'ai pas donné la vie. J'ai donné la vie, mais j'ai donné aussi la mort. Pourtant, les femmes, nous sommes faites pour donner la vie. Aujourd'hui, ce n'est plus excusable qu'on laisse les mamans. Parce que les femmes infectées ont droit de procréer aussi. Parce que ce sont avant tout des femmes. Qu'on les laisse parce qu'elles n'ont pas eu les moyens de suivi correct, qu'on les laisse avoir des enfants infectés et qu'elles voient leurs enfants mourir comme j'ai vu mon fils. Aujourd'hui, 30 ans après, c'est inacceptable qu'il y ait des Guy Bertrand. Le Guy Bertrand, c'était mon fils qui est né. Je dis, il n'y a plus de Guy Bertrand au monde parce qu'il y a moyen de les sauver. Et c'est inacceptable. Tous les décideurs doivent comprendre cet appel. Ça n'a pas de sens et c'est un génocide. C'est tout simplement un meurtre. Et chaque personne devait se regarder dans un miroir et se dire, qu'est-ce que moi j'ai fait pour permettre à ces enfants de vivre correctement comme les autres. C'est inacceptable. Et je dis, je le répète, il faut un engagement politique au plus haut niveau. Mais il faut aussi que les donateurs aussi accompagnent les pays. Quand je dis, les pays doivent montrer leur volonté, doivent toucher dans la poche, doivent investir. Mais nous savons aussi les limites de nos pays. Qui est cette solidarité? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que le VIH-SIDA n'est plus une priorité, ce n'est plus à la mode. Hein. Aujourd'hui, on va vous dire, il y a la crise. Mais dès qu'il y a la guerre, dès qu'il y a quelque chose qui fait du bruit, qui tue avec du bruit, l'argent est disponible. Je dis qu'il n'y a pas de volonté Et il n'y a plus cette solidarité que nous avons vue il y a 20 ans et qui a montré qu'on pouvait faire des choses. C'est pour ça que nous sommes encore en vie. Il n'y a pas une maladie qui a eu beaucoup d'avancées et dans peu de temps comme le VIH, parce que tout le monde avait peur. Et aujourd'hui, comme les pays qui ont les moyens parviennent à soigner tout le monde, aujourd'hui, il n'y a pas un enfant en Europe ou aux États-Unis qui naisse avec le VIH. Mais dans nos pays, on en a encore. Dans nos pays, on meurt encore du VIH-Sida. Dans nos pays, on meurt parce qu'on ne peut pas avoir la troisième ligne. Dans nos pays, on meurt parce qu'il n'y a pas de charge virale, parce qu'on n'a pas de suivi correct pour les traitements. Et c'est inacceptable.
Oui, l'ONU-SIDA a établi une liste de 35 pays prioritaires qui représentent 90% de nouvelles infections ayant besoin d'une attention particulière pour parvenir à mettre fin à l'épidémie. On voit cette volonté au niveau de l'ONU qui veut briser l'épidémie de SIDA en doublant le nombre de personnes sous traitement antirétroviraux.
Alors vous savez, c'est quelque chose de faisable, hein? Et d'abord, vous savez, s'il y a une chose qu'on peut dire, c'est que la recherche d'abord a montré que et si une personne infectée a des traitements et est bien suivie, ça veut dire que sa charge virale est indétectable, cette personne ne peut plus transmettre le VIH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, s'il y a les moyens et qu'on parvient à donner le moyen pour que toute personne qui se fait dépister et toute personne qui se retrouve infectée soit traitée correctement, suivie correctement, cette personne ne peut plus infecter. Et si les personnes infectées ne peuvent plus infecter, il n'y aura plus d'autres nouvelles infections. Je pense qu'il n'y a pas meilleure prévention que de traiter tout le monde. Seulement, on n'est pas encore là. Et pour ça, je dis, c'est possible. C'est possible que, qu'on traite les gens. Certes, dans un premier temps, il faut donner beaucoup d'argent, mais en termes économiques, si on regarde ce qu'on perd en continuant à perdre des gens qui sont actifs et qui sont des producteurs, et l'argent qu'on met dans les structures de santé pour les gens qui sont tout le temps malades, et à terme, en fait, on gagnerait. C'est un investissement, tout simplement. Cette jeunesse aujourd'hui qui vont vous dire, voilà, il y a Jeanne Gapia qui vient de dire 29 ans, elle vit avec le VIH depuis 29 ans, donc c'est plus un problème. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas combien je me bats au jour le jour. Et que peut-être, il y en a qui ne pourront pas le faire comme je le fais. Parce que moi, j'en ai fait ma vie. Et je le fais pour vivre, rester en vie, pour me battre. Parce que je me bats pour moi, je me bats pour cette jeunesse, je me bats pour le monde, tout simplement, parce que j'aimerais voir un monde sans sida. Et j'aimerais que ce jour-là arrive alors que je suis encore en vie. Et j'aimerais que ce soit cette volonté que cette jeunesse ait et que la jeunesse aujourd'hui se dise « J'aimerais vivre sans le sida. » Parce que vivre avec le sida, c'est vrai. Vivre avec le VIH, c'est possible. Mais vivre sans le sida, c'est encore mieux.
La motivation pour vaincre le sida doit être quotidienne et permanente. Paul-Émile Victor nous renvoie à cette responsabilité individuelle dans sa réflexion. Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Ainsi s'achève, chers auditeurs, votre Carrefour. Michel Joseph a réalisé cette émission. Eric Manilakiza vous remercie de votre oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.
Bienvenue à bord.